Eh bien, écoutez, on va commencer tranquillement. Meilleurs vœux à tous.
Merci.
Merci de votre fidélité. Et nous allons poursuivre peut-être un petit rappel sur les trois premières séances qui ont précédé. Vous vous souvenez que nous avions commencé par aller faire un petit tour dans la Bible hébraïque avec Daniel 7 pour voir comment le discours, le langage, le vocabulaire apocalyptique s'enracinait dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. Nous allons le revoir encore aujourd'hui, parce qu'avec toutes ces histoires de chevaux, on les trouve déjà chez le prophète Zacharie, chez le prophète Joël, etc. On avait vu comment, en novembre, l'Apocalypse finalement se proposait comme une sorte de récapitulation du temps, ou plutôt une lecture du temps présent ou de la crise présente en fonction d'un temps plus vaste, cosmique, le temps de Dieu, et surtout de la fin de ces temps-là, avec cette richesse d'interprétation qui est que c'est une vision des temps de la fin qui donne le sens du combat présent, avec aussi le risque qui s'est largement avéré durant deux millénaires de lecture de l'Apocalypse, c'est qu'on est tellement fasciné par ce discours mythologique sur les temps de la fin qu'on croit que l'Apocalypse parle de l'après, hein, ou de la fin. Et voilà. Donc c'est une des difficultés. Vous connaissez tous ce proverbe chinois, on dit qu'il est chinois, mais le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. En l'occurrence, là, le doigt, c'est la narration des temps de la fin. Et la lune, c'est le temps présent que nous vivons aujourd'hui. Alors évidemment, si on se concentre, comme le font un certain nombre de sectes, sur les révélations, sur ce qui va se passer dans la dernière page de l'agenda de Dieu à la fin des temps, on loupe l'objet du livre. Ça nous avait été confirmé assez largement quand nous avons, en décembre, lu les lettres des chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, qui montrent bien comment un responsable d'Église qui est en exil à cause du témoignage, justement, est soucieux des églises auxquelles dont il avait la charge avant, et leur envoie des lettres pour les soutenir dans leur résistance idéologique et spirituelle à l'Empire. Voilà. Alors, on avait évoqué une fois ou l'autre le fait que une des raisons de cette profusion d'images fantastiques était le fait que le visionnaire de l'Apocalypse essaie de soutenir ses paroissiens, en tout cas ceux dont il a la charge spirituelle, en essayant de leur donner des éléments pour résister à la fascination du discours dominant de l'Empire romain, qui se montre comme le plus fort et comme n'ayant aucune alternative. Sans que ça engage un débat politique, mais vous connaissez tous le TINA de Margaret Thatcher, « There is no alternative », TINA, hein, « There is no alternative ». D'une certaine façon, l'Empire romain était vis-à-vis des populations conquises dans ce genre de discours. « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative, c'est la seule réalité qui s'impose, puisque l'Empire domine d'un bout à l'autre du monde, qu'en plus il a apporté la paix, une paix un petit peu musclée parfois, mais enfin, pour la plupart, c'était quand même assez favorable au commerce, et d'ailleurs l'Apocalypse en parlera, on verra ça en mars. Et devant un discours qui se manifestait, alors évidemment pas avec les médias sociaux ni avec la télévision, mais au travers de monuments impressionnants, de parades militaires ou de cérémonies impériales, le visionnaire de l'Apocalypse offre à ses destinataires une vision alternative. Alors que l'Empire dit « il n'y a pas d'alternative », le visionnaire de l'Apocalypse dit « il y a une alternative, on peut regarder les choses autrement ». Et alors évidemment, il va amasser tout un tas d'éléments, et c'est ce que nous allons voir en particulier, mais on va le voir tout au long de notre parcours, mais en particulier aujourd'hui. On pourrait presque parler d'une reconfiguration du réel par le récit. Vous voyez, nous aujourd'hui, si on est un adepte des journaux télévisés, c'est le journal du 20h ou de 13h qui construit la réalité du monde pour nous. Est-ce que c'est la vraie réalité du monde ? Ça, c'est autre chose. Mais ça nous construit la réalité du monde pour nous. Pour l'Empire romain, à l'époque du christianisme des premiers siècles, c'était l'Empire romain qui construisait une réalité de pouvoir, de toute puissance, etc. Et que va faire le visionnaire de l'Apocalypse ? Il va proposer une vision alternative de la même chose. Hein. Voilà. Ça, c'est pour introduire le fait qu'on va travailler sur... On devrait travailler, je vous avais recommandé de lire les chapitres 4 à 11, mais vous voyez bien que c'est beaucoup trop large. On va peut-être se centrer sur les chapitres 5 à 7 que je vous ai distribués. J'avais mis 9 à 6, excusez-moi, 9 à 6 à 9 sur la feuille, mais c'est une erreur. C'est en fait 5 à 7, mais vous irez les voir et puis vous serez dans la lancée. Juste peut-être une dernière, avant que nous commencions la lecture, au chapitre 5, j'aimerais dire deux mots de la vision qui a lieu au chapitre 4. Il y a la première des visions de l'Apocalypse, c'est la vision d'un trône. Or, qu'est-ce qui se passe sur un trône ? Il y a un roi. Sur un trône, il y a le pouvoir. Donc la première vision qu'a le visionnaire, c'est une vision d'un trône, donc qui appelle tout de suite un imaginaire du pouvoir. Il y a des trompettes. On invite même celui qui va s'asseoir sur le trône à monter les marches, à monter les gradins jusqu'au trône. Vous voyez bien que là, on est dans un cadre cérémonial royal, impérial. Et le chapitre 4 se termine par une acclamation. On nous dit, les 24 anciens, on verra qui c'est, se prosterneront devant celui qui siège sur le trône, ils adoreront le vivant pour les siècles des siècles, ils jetteront leur couronne devant le trône en proclamant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté que vinrent les êtres et qu'ils furent créés. » Donc on a une cérémonie de soumission à celui qui est assis sur le trône. D'ailleurs, tous les puissants jettent leur couronne pour dire « Nous ne méritons pas de porter la couronne devant toi, nous mettrons notre pouvoir sous le tien. » Il y a même une formule reprend quasiment texto une formule d'intronisation impériale, sauf que cette formule n'est pas adressée à l'empereur de Rome, mais à Dieu, ou à celui qui lui tient lieu et qui va s'asseoir sur le trône. Vous voyez bien la puissance subversive qu'a cette liturgie, on pourrait dire. On va emprunter les paroles liturgiques qui installent l'empereur pour les détourner et les adresser à Dieu ou à celui qui siège sur le trône. Une autre façon de dire, dans la vision alternative que je vous propose, le vrai chef, c'est pas l'empereur qui siège sur le trône à Rome, c'est celui que nous adorons. Vous voyez ? Une sorte de... Et ça va ouvrir à des visions de l'histoire que nous allons commencer à lire ensemble dès maintenant. Comme il y a trois chapitres, les chapitres 5, 6 et 7 que nous allons tenter de lire, je les ai mis là, madame. Nous allons lire d'abord le 5, et puis on s'arrêtera pour faire des commentaires, et puis le 6, etc. Qui veut bien lire pour nous, on va dire, ce chapitre 5 ? Allez-y.
5. Alors je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au dos, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Mais l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Alors je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre et des coupes d'or pleines d'encens qui sont les prières des saints. Ils chantent un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône avec celle des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des dizaines de milliers de fois 10 000, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. » Et les quatre êtres vivants disaient, « Amen. » Et les anciens tombèrent pour se prosterner.
Merci beaucoup. On n'a pas encore ouvert un des sceaux, hein, là. Quel est le préalable à l'ouverture des sceaux ?
La remise à l'agneau. Celui qui est digne de l'ouvrir,
la recherche. La recherche de celui qui est digne pour l'ouvrir et la remise à celui qui est digne de l'ouvrir. Ouais, ouais. Ça tient à quoi la dignité pour ouvrir ? On va d'abord essayer de voir de quoi il s'agit. Ce livre écrit, vous voyez, il est assez particulier. C'est un livre écrit au dedans et au dehors. Comment on peut s'imaginer ça ?
Un volumen recto verso,
un rouleau recto verso. Vous savez que quand on voit les livres de la Torah qui sont écrits sur des rouleaux de peau de mouton, c'est pas encore du parchemin à l'époque. Ils sont écrits que d'un côté. Et alors on peut dire, pourquoi est-ce qu'on écrit des deux côtés ? Parce que d'habitude, on n'écrit que d'un côté, puis quand c'est roulé, l'écriture est à l'intérieur, puis à l'extérieur, on ne voit rien. D'abord, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Ben, ça pourrait vous rappeler le prophète Ézéchiel, chapitre 2, versets 9 à 10. Je lis... le prophète Ézéchiel, chapitre 2, versets 9 à 10. « Je regardais, et voici qu'une main était tendue vers moi, tenant un livre en rouleau, et il le déploya devant moi. Il était écrit en dedans et en dehors. Et il y était écrit lamentation, plainte et gémissement. » Donc l'histoire d'un rouleau écrit des deux côtés, on la trouve déjà chez le prophète Ézéchiel. Et on pourrait... presque faire ce commentaire-là sur n'importe quel passage de l'Apocalypse. Hein. Il a été chercher son matériel imaginaire dans le matériel imaginaire dont disposaient ses auditeurs qui étaient de culture juive ou juive et chrétienne. Mais évidemment, pour un lecteur de la Bible hébraïque, dès qu'on parle d'un rouleau écrit des deux côtés, on pense immédiatement à Ézéchiel. Et un rouleau qui est plein à saturation de gémissements et de tribulations. Alors, à l'époque d'Ézéchiel, on voit bien de quoi il s'agit. C'est quoi ces gémissements, ces lamentations ? C'est l'exil. C'est les douleurs liées à l'exil. Là, on va voir de quoi il s'agit. Mais en tout cas, ça augure rien de bon pour ce qui est dans ce livre. L'idée qu'il est écrit dedans et dehors, ce n'est pas par économie écologique de papier, c'est parce qu'il y en a tellement qu'il faut que ça déborde. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre le fait d'ouvrir ou d'avoir ou pas le pouvoir d'ouvrir le sceau ? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir autorité ou pouvoir ouvrir le sceau ? Donc le sceau qui va sceller, tenir fermé ce livre. S'il reste fermé... Pardon ?
On est bien plus tranquille s'il reste fermé.
Ah, parce que vous le lisez un petit peu comme la boîte de Pandore.
Exactement.
Tant qu'on n'ouvre pas le couvercle, ça ne va pas sortir. Oui, mais, non, là c'est de toute façon écrit ce qui va arriver. Donc qu'on l'ouvre ou qu'on ne l'ouvre pas, ça ne changera pas les choses. Ce qui doit arriver, arrivera. Ça fait... Quelle est la différence entre l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans ou le laisser fermer? Pardon?
Oser voir le réel.
Oser voir le réel, oui, c'est intéressant ça. Oser voir le réel. Pouvoir lire le réel. Avoir une interprétation du réel qui n'est pas celle qui passe au journal de 20h, enfin, excusez-moi, qui passe lors des discours ou des cérémonies impériales. C'est-à-dire oser affronter... D'une certaine façon, celui qui va être en autorité d'ouvrir le sceau, c'est celui qui a autorité pour dire la réalité de la réalité. On pourrait dire le visionnaire dit il y a une réalité publique qui vous est serinée à longueur de défilés impériaux ou de cérémonies impériales, mais ce n'est pas la réalité. La réalité de la réalité, elle est écrite dans le rouleau. Et il y en a un qui a autorité pour dire la vérité de la réalité. Pour dire ce qui se joue vraiment derrière ce qu'on vous raconte, d'une certaine façon. Hein, c'est ça, vous vous rappelez le sens de l'Apocalypse, c'est le dévoilement. Il s'agit de tirer le voile sur la réalité. Pas rester avec le voile sur les yeux, mais ouvrir les rideaux pour voir ce qui se passe derrière. Qui est-ce comment est-ce qu'il est décrit, celui qui va enfin être Alors vous voyez qu'il pleurait beaucoup parce que dans tout le monde entier, il n'y avait personne qui était capable. D'une certaine façon, le voyant a été mis en appétit. Il va savoir, il va comprendre. Mais pour comprendre, il y a besoin de quelqu'un de particulier. Et on n'en trouve pas dans le monde. On ne trouve personne qui ait la capacité de dire la réalité de la réalité. Il y a juste une personne qui est proposée pour pouvoir dire la réalité de la réalité ou la vérité de la réalité. Et puis comment est-ce qu'elle est... Enfin, une personne. Une entité, on va voir. Comment est-ce qu'elle est décrite? Essayons de voir au fil du texte comment est-ce que est décrit...
Il est d'abord annoncé avant d'être décrit.
Oui, à quel verset ?
Ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda peut ouvrir le livre.
Oui, voilà. Il est déjà présenté comme...
l'autorité qui peut ouvrir.
Oui, c'est le lion de la tribu de Juda. Oui, au verset 5. Ne pleure pas. Un des anciens qui lui dit, le lion de la tribu de Juda. Donc, il est premièrement décrit comme lion de la tribu de Juda. Et puis, quels sont ses autres qualificatifs ?
Rejeton de
David. Donc, on voit que c'est un personnage messianique, hein, de la lignée...
Mais royale.
Royale, exactement. Oui, parce que qui de mieux pour remplacer un empereur que quelqu'un qui est d'une lignée royale, hein ? Parce qu'on est bien pouvoir contre pouvoir. Ouais. Lion de la tribu de Juda, rejeton de David...
Et vainqueur.
Alors, il a été vainqueur. C'est intéressant parce qu'on a une phrase qui a l'air amputée. Il est vainqueur. De quoi ? De quoi est-ce qu'il a été vainqueur ? Hein ? On est bien content qu'il soit vainqueur, mais de quoi est-ce qu'il est vainqueur ? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. La chose qu'on peut savoir, c'est que, vous voyez comment l'Apocalypse joue avec les temps. Ce personnage-là va évidemment se retrouver en confrontation avec celui qui est effectivement assis sur le trône à Rome, avec l'empereur. Et on sent bien qu'il n'y a pas de place pour deux sur le trône. S'il y en a un qui est déjà assis sur le trône et que le visionnaire dit qu'il y en a un autre, va forcément y avoir conflit entre les deux. Donc un combat s'annonce. Mais dans ce combat, le protagoniste qui est annoncé comme le lion de la tribu de Juda ou le rejeton de David, il est dit déjà vainqueur. C'est pas il sera vainqueur, c'est pas il va gagner, mais il a été vainqueur. Il va rentrer dans le combat en étant par avance vainqueur. Vous voyez comment l'Apocalypse joue avec les temps. On dit le combat, il va se dire, comment on peut le savoir, puisque le combat va se dérouler après. Mais il y a une victoire qui a été remportée avant. Mais on ne sait pas la nature de cette victoire. Alors, pour savoir la nature de cette victoire, on va continuer à pister les qualificatifs, les descriptions données de ce personnage qui a autorité pour dire la vérité de la réalité. Comment est-ce qu'il est encore décrit ?
Un agneau debout, immolé.
Oui, ça c'est au verset qui suit. Alors je vis au milieu du trône, il y est déjà, et des quatre êtres vivants sur lesquels on reviendra, au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Alors là, il n'y a plus...
Est-ce qu'à l'époque, on utilisait la figure de l'agneau comme représentatif du Christ ? Ou est-ce que c'est une image totalement nouvelle ?
Alors, elle n'est pas toute... Ah ! Non. Qu'est-ce qu'il faut dire ? La représentation du Christ comme agneau, elle est typiquement chrétienne.
Oui.
Or, là, on est en milieu chrétien, donc...
Donc c'est déjà utilisé.
C'est tout à... Oui, bien sûr, ça. Oui. Puisque c'est l'agneau pascal qui a été immolé.
C'est ça.
Sauf que vous voyez, il y a quand même une sorte d'oxymore, là. Un agneau debout qui semblait immolé. En général, un agneau immolé, il est à plat sur l'autel. Sauf que là, il est debout. On voit bien l'image qu'il y a derrière. C'est la résurrection. Donc, il est le Christ mort et ressuscité. C'est lui, le Christ mort et ressuscité. Alors, il y a plusieurs oxymores, hein. Puisqu'il est debout bien qu'immolé. En plus, il est un agneau et en même temps un lion. Ce qui est quand même assez original. Parce que c'est le même qu'on appelle lion de Juda et agneau
immolé.
Et agneau immolé. Et alors là, on voit bien que lion... Qu'est-ce qu'il faut dire ? Lion de Juda, ça renvoie à quel imaginaire, à quelle valeur, à quel... À la royauté, ouais, c'est en plus précisé avec David, à la force, hein, avec le lion, alors que l'agneau, ça renvoie à la faiblesse, d'autant plus s'il est immolé. Donc on voit bien qu'il y a là un jeu entre puissance et faiblesse, un petit peu comme dans le premier chapitre de la lettre de Paul aux Corinthiens, la faiblesse de Dieu et la force de Dieu, hein, la faiblesse de Dieu qui est plus forte que la force des forts.
En tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a une représentation de Michel-Ange de Christ à la colonne qui est à la fois crucifié et ressuscité.
Oui, ouais, parce que, et ça c'est tout à fait conforme en tout cas à la théologie chrétienne et à la théologie paulinienne, c'est que Christ est toujours simultanément crucifié et ressuscité. C'est-à-dire que on n'est pas dans la logique où la crucifixion a été une mauvaise passe et puis c'était juste un pied d'appel pour ressusciter. Les deux, quand on parle de la croix ou de la théologie de la croix, on parle toujours de la croix et la résurrection. Les deux font sens ensemble. Parce que s'il n'y a que la mort, c'est une regrettable erreur judiciaire ou l'élimination d'un prophète gênant, ou ce que vous voulez, mais c'est bien triste, mais c'est comme ça. Alors que le fait que, en théologie chrétienne, Dieu reconnaisse son Fils dans le crucifié en le ressuscitant, pour Paul, il va parler de la parole de la croix. C'est la victoire sur la mort, exactement. Et alors, vous voyez que maintenant, on sait pourquoi il a été vainqueur. Le rejeton de David et le lion de la tribu de Juda. Il a été vainqueur par sa mort. Vainqueur par sa mort et sa résurrection. C'est finalement, pour le visionnaire de l'Apocalypse, c'est le fait qu'il soit mort et ressuscité, qu'il n'ait pas hésité à mourir dans la confiance et à ressusciter, ou à être ressuscité, qui constitue l'agneau immolé, ou le lion de Juda, ou le descendant de David, qui le constitue apte à ouvrir les sceaux, c'est-à-dire à donner la réalité de la réalité. Vous voyez ? C'est d'être passé par la mort et la résurrection qui va servir de clé, puisqu'il s'agit d'ouvrir des sceaux. En disant ça, le visionnaire de l'Apocalypse dit « La clé de compréhension de l'histoire qui va se révéler quand on va ouvrir le rouleau, c'est la mort et la résurrection du Christ, l'agneau immolé, debout, etc. » Donc il donne la clé de compréhension. On va lire l'histoire avec ça comme clé de compréhension. C'est pour ça que c'est lui qui est capable d'ouvrir. Alors, on va continuer la lecture un petit peu. Qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'il a été... qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a été désigné dans les versets 6
Il a des cornes et des yeux, est-ce que c'est vraiment nécessaire?
Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il ait des cornes et des yeux? Ah oui, ça c'est intéressant, oui.
Ouais. Des yeux, oui, mais des cornes.
Et surtout sept, hein. Ouais. Mais voyez, on nous dit que c'est les sept esprits de Dieu envoyés aux églises. Et on avait déjà eu les sept églises avec les sept lettres de l'Apocalypse. Ça lui donne un caractère d'universalité. Alors, d'universalité sur deux registres. La corne, c'est... On va finir par les apprendre, les symboles. Ils ne sont pas automatiques, hein. Mais la corne, c'est la force, le pouvoir. D'ailleurs, les cornes, on les retrouvera sur certaines des bêtes qui montent de la mer dans l'Apocalypse. La corne, c'est le... Dans tout l'Orient ancien, la corne, les cornes, c'est le symbole du pouvoir et de la force. Et puis les yeux... Les yeux, c'est la connaissance, hein, c'est la connaissance, la capacité à voir ce qui se passe. Hein. Donc c'est plutôt des... Et c'est au verset 6, les cornes et les yeux. Verset 6b. Vous voyez, on nous voit que là, c'est plutôt des cornes et des... C'est plutôt un pouvoir et une connaissance qui est plutôt sympathique, puisqu'ils sont assimilés à l'Esprit de Dieu. Hein. Aux sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On avait vu qu'ils avaient été envoyés aux sept églises, mais on avait déjà discuté de ça, sur le fait que les sept églises peuvent désigner à la fois des églises particulières et en même temps, par leur nombre, avoir une dimension d'universalité. Donc, il est digne de recevoir le livre dans sa main droite, il vaut mieux, parce que Benjamin, la main droite, c'est la meilleure. Vous voyez que quand il a reçu le livre, toutes les puissances de la terre, en tout cas celles qui sont au ciel avec Dieu, les 24 anciens et les 4 êtres vivants tombent devant l'agneau. En fait, ils font le même geste qu'on avait dans le chapitre 4 pour la cérémonie d'intronisation. C'est-à-dire qu'ils affirment leur soumission. Les quatre bêtes, on les reverra, et elles viennent d'Ézéchiel, et je crois qu'on les a aussi en Daniel. Mais si vous retournez votre feuille, Alors certains l'ont en noir et blanc, certains l'ont dans de bonnes couleurs, et puis certains l'ont en rose. Et c'est simplement le fait que mon imprimante a fatigué au niveau de la couleur, mais le dessin est le même. Vous voyez que ces quatre bêtes, ce sont... Alors, vous dites, mais c'est les évangélistes. C'est vrai que dans le tympan de la cathédrale de Chartres, c'est effectivement les évangélistes. À l'époque de l'Apocalypse, c'est pas les évangélistes, parce que ce n'est qu'au à partir du deuxième siècle qu'on attribuera à chaque évangéliste une bête. C'est d'abord les bêtes d'Ézéchiel ou les bêtes de Daniel. Vous vous souvenez que dans le chapitre 7 du livre de Daniel, il avait décrit, Daniel, les différents empires qui s'étaient succédés, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, puis les Grecs, par une succession de bêtes. Ça, c'est des successions de pouvoirs. Et puis, pourquoi 4? Parce que, alors, à chaque fois qu'on trouve le chiffre 4 dans l'Apocalypse, c'est un nombre un peu géographique. C'est les 4 points cardinaux. C'est les 4 vents. Hein. Donc, c'est un petit peu l'ensemble des pouvoirs de la Terre. Mais vous avez tout à fait raison de dire que à l'époque du tympan de la cathédrale de Chartres, et depuis le IIe siècle, on a affecté, puisqu'il y en a 4, à chaque évangéliste une bête. Hein. C'est pour ça là d'ailleurs que sur la plupart des tympans, ils tiennent chacun un livre, puisqu'ils tiennent chacun leur évangile. Hein. Mais ils sont dans la même position, ils sont autour du Christ en gloire, assis sur son trône. Donc hein, chacun des tympans qu'on voit sur à l'entrée des cathédrales représente au centre ces scènes de l'Apocalypse du Christ en gloire sur son trône, entouré par les quatre bêtes. Pardon ?
Et il tient le livre ici.
Alors il tient lui-même un livre. Celui qui va ouvrir, parce qu'il a reçu, autorité et pouvoir pour ouvrir les sceaux. Autrement dit, ce genre de tympan, c'est le rappel que le sens de ce qui se passe, la clé de ce qui se passe, la réalité de la réalité, de l'histoire du monde qui est écrite dans le livre, la clé, c'est celui qui siège sur le trône, l'agneau immolé debout, le rejeton de David, le rejeton de David ou le lion de la tribu de Juda.
Donc la transcription à Moïse, par exemple, oui. On voit les 24 milliards de l'Apocalypse,
oui.
Et le tétramant autour de la vendeur du Christ, c'est une mauvaise lecture.
Pourquoi?
Vous venez de dire que les quatre bêtes, ce sont...
Alors, à l'époque de l'Apocalypse, les quatre bêtes renvoient à des puissances et font appel, donc à la fin du 1er siècle, quand l'Apocalypse est écrite, ils ne pensent pas encore aux évangélistes. Par contre, ce qui est tout à fait clair, c'est qu'à partir du 2e siècle de notre ère, on attribue chacune des bêtes aux évangélistes et que les sculpteurs qui vont le représenter ont conscience ne font plus appel aux bêtes d'Ézéchiel ou de Daniel, mais font appel aux évangélistes.
Donc,
il y a un glissement, exactement. Ceci dit, le glissement est pas très très gênant du point de vue du sens, parce qu'on peut aussi lire le tétramorphe des quatre évangélistes comme rendant gloire et témoignage au Christ qui trône au centre. Et finalement, c'est exactement la fonction qui est donnée aux bêtes avec les 24 anciens dans le livre de l'Apocalypse. Mais il y a un glissement de signification, effectivement. Mais pas de sens de l'ensemble de la scène. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste de dire que c'est les évangélistes. Les évangélistes, absolument, tout à fait. D'ailleurs, quelquefois, ils sont tournés vers le Christ, et dans de très rares occurrences dans la statuaire, ils sont tournés vers l'extérieur. Il y a en particulier un Christ comme ça tétramorphe dans l'abbaye de Jouarre, près d'ici en Seine-et-Marne, qui date de l'époque carolingienne, je crois, où les évangélistes, enfin les bêtes sont tournées vers l'extérieur. Et alors là, l'idée, c'est pas qu'ils rendent gloire au Christ, mais c'est qu'ils vont témoigner. Ils partent du Christ pour témoigner aux quatre coins du monde. Hein, l'orientation des bêtes, si elles sont tournées vers le Christ, elles rendent gloire. Si elles tournent le dos au Christ, elles partent du Christ pour aller porter l'évangile.
C'est une grande constante, du moins pour les catholiques, puisque les protestants, c'est quand même beaucoup moins dans l'iconologie, c'est de remplacer un symbole par un autre. On remplace les symboles des puissances de l'époque par les symboles de la foi propagée par les évangélistes.
Ouais.
C'est une grande constante en iconologie.
Ouais. Et là, dans le livre de l'Apocalypse, ces puissances, qui ne sont pas encore devenues des évangélistes, sont déjà soumises au vainqueur. Hein? Elles ne s'y trompent pas. Elles savent qui est le chef, hein? ou qui est le vainqueur.
Parce que pour la foi, là, je pense que tout le monde le sait, la vraie puissance, ce n'est pas celle de la violence, des armes ou du pouvoir, c'est celle de la foi.
Oui. Mais quelquefois, elle a à affronter la puissance des armes. C'est ce qu'on va voir quand les livres s'ouvriront. Peut-être encore une ou deux choses. Vous voyez que tous chantent un chant nouveau, disent la dignité de celui qui est, au verset 9, chargé d'ouvrir les sceaux. Et voyez bien que cette dignité, hein, là c'est explicitement dit. Pourquoi est-ce qu'il est digne? C'est parce qu'il a été immolé, et qu'il a été racheté ou acheté pour Dieu par son sang. Hein? C'est bon, l'acte qui donne la dignité pour et la capacité pour lire le sens de l'histoire, c'est la mort et la résurrection du Christ. Et voyez bien que la fin de l'acclamation est une acclamation qui est digne d'une acclamation impériale, puisque les gens de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation, universellement, vont l'adorer. Or, normalement, ceux qui, de toute nation, toute tribu, toute langue, adorent, ils adorent l'empereur. Hein? Sauf que là, ça retourne les choses, ça fait des gens de toutes les nations des témoins qui rendent gloire à la victoire remportée par l'agneau. Et puis, il y en a même, on en rajoute, vous voyez, parce qu'il y a en plus beaucoup d'anges, et puis des milliers de fois 10 000, des milliers de milliers de milliers, etc. Et de nouveau, et ça revient sans arrêt, verset 12, l'agneau a été immolé, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. Et puis c'est répété, et ça, de nouveau, on trouve ça dans la liturgie impériale. Et vous voyez, c'est tout à fait intéressant, c'est organisé comme une liturgie parce que il y a une voix forte dans le ciel qui dit ce qu'il faut dire, et puis c'est un peu répété après moi, hein, et l'assemblée, mais là c'est pas une assemblée, c'est pas une petite assemblée ecclésiale, c'est l'assemblée de l'univers répète après le liturge céleste l'acclamation qui reconnaît la puissance de celui qui est en charge, et les quatre êtres vivants disent Amen. Vous voyez, on est souvent dans l'Apocalypse dans un cadre quasi liturgique. Alors nous, on le pense toujours en liturgie en comparaison à la liturgie chrétienne, mais en fait, là, il y a des emprunts à la liturgie impériale. Les quatre bêtes, exactement, qu'on appelle aussi les vivants, ah, ouais. Oui. Les raïms. Ça fait allusion à Genèse 1, hein, et ils devinrent des êtres vivants à Genèse 1, non, à Genèse 2, quand il y a la création des animaux.
Et les quatre anciens.
Ah,
24 anciens.
Les 24 anciens. Alors, puisqu'on sait que dans l'Apocalypse, les chiffres ne sont jamais neutres. Hein. Les 24 anciens. On se dit, comment faire 24? Vous avez des solutions pour faire 24?
6 fois
4. Alors dans ce cas-là, il faut dire... 2 fois 12. Ouais. Moi, je pencherais plutôt pour 2 fois 12, effectivement. Parce que 12, on n'est pas embarrassé. Parce que 12, il y a d'un côté les tribus d'Israël, et puis de l'autre côté, il y a les 12 apôtres. Il est possible que ça renvoie à l'ensemble des grands témoins, on pourrait dire, que ce seraient les tribus d'Israël ou les... Alors, il y a les 12 petits prophètes, mais alors pourquoi est-ce qu'on exclurait les grands, hein? Sans doute que ça renvoie à, aux 12 apôtres, aux 12 tribus d'Israël, au fait que, du point de vue de l'auteur de l'Apocalypse, qui est sans doute un judéo-chrétien, il est naturel que les tribus d'Israël et les apôtres s'unissent dans la reconnaissance de la royauté et de la dignité de... C'est une hypothèse. Et puis, peut-être que ça veut dire plusieurs choses à la fois, c'est aussi tout à fait possible. Mais je pencherai bien pour 12 et 12, oui. Quelque chose comme ça. Je vous suggère de poursuivre la lecture. Qui veut bien lire... il y a plusieurs chapitres, alors vous pourriez donner, passer un relais, pour plusieurs paragraphes. Le chapitre 6, il y a les versets 1, 2, il y a les versets 3, 4... 5, 6, vous voyez, je les ai séparés. 7, 8, et puis ensuite 9, 11. Et quelqu'un lira les versets, enfin les versets 12 à 17. Qui veut bien lire? Allez-y, puis ensuite vous enchaînerez de voisin en voisine.
À partir de
6, 1, puisque nous avons terminé là, le commentaire du...
6, 1, d'accord.
Je regardais.
Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 seaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Alors je vis un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, sortit. À celui qui le montait, il fut donné d'ôter la paix de la terre, pour que les gens s'entrégorent. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Alors je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, quant à l'huile et au vin, ne leur fait pas de mal. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire, viens. Alors je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent, « Jusqu'à quand, Maître Saint et vrai, tardes-tu à juger, à venger notre sang en le faisant payer aux habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet les compagnons d'esclavage et leurs frères qui allaient être tués comme eux. Voici ce que je vis quand il ouvrit le sixième sceau. Il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent de la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira, tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre, les dignitaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous, esclaves et hommes libres, allèrent se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de, la colère, de leur colère est venu, et qui pourrait tenir debout ?»
Merci beaucoup. Et là, on est dans du... dans de la vraie vision, hein. C'est du dur. On va commencer par essayer de rendre compte des versets 1 à 8 et de ces quatre chevaux. Est-ce qu'ils sont mis sur le même plan ou est-ce qu'il y en a qui sont à qui sont d'un autre ordre que les autres?
Ils sont tous appelés de la même façon.
Ils sont tous appelés de la même façon. Quand vous dites appeler,
c'est-à-dire qu'il y a une voix de l'un des quatre êtres les appelle en disant viens.
Oui, tout cela est bien organisé. Hein. C'est toujours liturgique. Hein. Il y a une sorte de d'officiant céleste qui fait intervenir chacun des personnages à leur temps. Oui.
Un sur deux échoue. Un sur deux, ils n'ont pas eu le même.
Vous dites un sur deux. Dites-nous.
Par exemple, le cheval blanc, je commence par le début.
Oui.
Le cheval blanc tenait un arc, une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre.
Oui.
Le rouge, par contre, il lui fut donné d'ôter la paix de la terre pour que les gens s'entregorgent.
Oui.
Et c'est comme ça tout le temps, je veux dire.
Oui.
Entre quelque chose de plus, disons, pacifique et quelque chose de guerrier.
Ah, d'accord, ouais. Parce que vous voyez du pacifique quelque part.
Oui, dans les premiers.
Dans les premiers.
Oui, enfin, dans l'un sur deux.
Ah. Ouais.
Je crois que dans la représentation traditionnelle.
Ouais, on va essayer de voir.
L'arc était la pièce maîtresse du maître, du roi.
Ouais.
Tous les empereurs, tous les chefs de l'époque, assyriens, babyloniens, ouais, etc., étaient représentés avec leur arc.
Alors, en tout cas, c'est, dans l'iconographie assyro-babylonienne, ça c'est tout à fait clair qu'on a le roi qui est sur son char en train de tirer.
Chez
et d'ailleurs, souvent, il y a même la représentation du dieu au-dessus qui fait le même geste, comme s'il y avait un parallèle entre Dieu et le roi.
Oui.
Excusez-moi, monsieur, je ne suis pas complètement convaincu par votre alternance parce que... J'ai quand même du mal à voir lequel serait positif. À la limite, on pourrait dire peut-être le troisième n'a en première approche le cheval noir. Le troisième, celui des versets 5 à 6, n'a pas l'air d'apporter de la guerre. On est dans un autre registre. Mais vous dites qu'il est dans le registre de la famine et le verdâtre, il apporte quoi?
Le verdâtre
apporte la mort. Ouais.
La peste ou le choléra qui était frappé par les
porcs. Ouais. Ouais. En tout cas, il y en a un, le premier, qui est le cheval blanc, à qui il n'est pas attribué de dégâts.
Non.
Le premier, il ne lui est pas attribué. Il est représenté de façon assez brève, hein, un seul verset, le verset 2. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'un arc lui fut donné, et monsieur a justement signalé que ça pouvait être un indice qu'il est en situation de royauté. Ouais. Une couronne lui a été donnée, ça veut dire qu'il est en situation d'être roi ou d'être vainqueur, parce que de toute façon, il partit en vainqueur pour vaincre. Ça vous rappelle pas un personnage qu'on a déjà rencontré ?
Cyrus.
Alors Cyrus, ça sent peut-être, mais dans notre texte.
Plus haut.
L'agneau immolé et le rejeton de Judas, il est déjà vainqueur. Quand dans un même texte comme ça, on a là deux vainqueurs, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre ces deux-là ? D'autant plus que ce cheval blanc, si vous allez voir le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, est-ce que quelqu'un... Non, vous n'avez pas amené vos Bibles ? Si, peut-être, au chapitre 19, les versets 11 à 16, Apocalypse 19, 11 à 16, qui, donc Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16, vous voulez bien nous les lire ? Alors en principe on lit pas les, excusez-moi, en principe on lit pas les titres qui sont pas dans le texte biblique. Vous savez, les protestants ils font très attention à ne lire, mais je sais, mais je rigole. Allez-y.
Ensuite je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui veut monter s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu.
Merci. Donc qui c'est? C'est le Christ. Celui qui chevauche le cheval blanc, c'est le Christ. On comprend pourquoi le premier des chevaux de Apocalypse 6 n'est pas un cheval destructeur. On nous dit juste qu'il est vainqueur. Mais il n'est pas vainqueur en faisant des destructions. Et madame avait raison de dire que, d'une certaine façon, il a une victoire non violente. Mais c'est une victoire quand même. Mais il n'a pas créé des destructions. Hein? Et alors, vous savez que cette expression-là, le cheval blanc, on la retrouve régulièrement. Si vous êtes un peu adepte de la bourse ou des rachats d'entreprises, des choses comme ça, qui est-ce qu'on appelle le cheval blanc, un cheval blanc, un chevalier blanc ?
C'est celui qui vient aider l'entreprise en difficulté.
C'est celui qui vient, en principe, aider l'entreprise en difficulté.
En fait, il la prend pour leur démolir un peu.
Alors, monsieur dit, je lui laisse son appréciation, mais je suis d'accord avec lui. Mais ce qu'on appelle usuellement en économie un chevalier blanc, c'est quand une entreprise périclite et qu'un racheteur, un sauveur racheteur arrive. C'est de là que ça vient. C'est de là que ça vient. Le chevalier blanc, c'est celui qui arrive pour sauver. Hein? Donc, au moins le premier cheval, il n'est pas de la même nature que les autres. On sait que c'est le personnage principal, c'est lui qui ouvre la danse et c'est lui qui va être vainqueur. Et on le retrouve comme vainqueur, comme Madame nous l'a lu, dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, versets 11 à 16. Alors maintenant, les trois autres chevaux. Les trois autres chevaux, est-ce qu'on pourrait essayer de voir de quelle réalité de l'histoire humaine ils témoignent, chacun de ces chevaux ? On va les prendre un par un. Hein. Chacun a une spécialisation. Le deuxième sceau, et qui est un cheval rouge-feu, c'est assez clair. Hein. Le sang, la guerre, que les gens s'entrégorgent, il ôte la paix sur la terre. Donc le premier cheval, c'est le cheval qui... Ils sortent du livre, hein, ces chevaux. On est en train de nous raconter l'histoire du monde. On n'est pas en train de nous raconter l'histoire à venir. On est en train de nous raconter l'histoire présente. Et le monde est traversé par des guerres et des tueries. Pardon ? Et quelqu'un disait, je ne comprends pas du tout ?
Non.
On peut poser des questions, oui. Le troisième cheval, celui qui est de quelle couleur ?
Noir.
Alors, quels sont les... Alors, vous dites que c'est la mort
Non, c'est le verdâtre, la mort.
C'est le verdâtre, la mort, c'est le quatrième.
Non, le verdâtre. L'autre, c'est l'histoire de la balance à la main, c'est la justice qui n'est pas bonne.
Alors, attention, ne vous jetez pas tout de suite, parce que nous, balance justice. Une balance, ça peut servir d'abord à autre chose qu'à faire de la justice. Regardez ce qui suit. Une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier. Ouais, alors vous êtes, quand vous dites la famille...
Vous pouvez avoir l'idée de la valeur du denier, qui était quand même une pièce, enfin c'était une valeur d'argent, je ne me rappelle plus exactement.
Ouais. C'est la valeur d'une journée de travail.
Voilà, c'est quand même relativement important.
Oui, exactement, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que là, la réalité humaine qui est représentée par le troisième cheval, c'est l'économie. Le premier, c'était la guerre. Le deuxième, c'est l'économie. Et puis, on est visiblement dans une économie de crise. Des historiens et puis des spécialistes de l'Antiquité ont été voir. Et on a effectivement affaire à des prix exorbitants. Or, effectivement, quand on est dans une situation où les prix des denrées de base sont exorbitantes, c'est une situation de famine. Avec, évidemment, ceux qui profitent de la famine, quand ils ne l'ont pas organisée. Mais ça, c'est encore autre chose. Il faut s'arrêter là, sinon on va faire de la politique. Et vous voyez bien qu'on a affaire à un texte qui n'est pas un texte hors sol. C'est comme, exactement, vous avez raison. C'est comme le marché noir parce que tout est dérégulé, parce que les denrées de première nécessité ne sont plus disponibles et ceux qui en font commerce ont toute latitude de le vendre au prix qu'ils veulent.
Les spéculateurs,
les spéculateurs, le boutiquier, enfin... Donc, vous voyez, on a eu la guerre, maintenant l'économie en situation de crise. Alors, on ne touche pas à... Ouais, alors ça a fait couler des flots d'encre. On ne touche pas à l'huile et au vin, ne leur fait pas de mal. Je n'ai pas beaucoup d'idées. Il y en a plusieurs, en fait. L'huile et le vin sont deux produits dont on sait qu'on les utilisait pour soigner des blessures, hein, ou soit pour désinfecter, soit pour comme onguent. Mais pourquoi, je veux dire, on est dans une situation de catastrophe, là. D'autres hypothèses disent on a affaire là à des éléments sacramentels qui renverraient à une pratique sacramentelle. On sait bien l'huile pour marquer, le vin dont on fait auquel on fait usage pour la scène et qui accessoirement peut représenter le sang du Christ. Il y a plusieurs hypothèses, il y en a aucune qui me convient complètement, mais c'est tout à fait clair que ça doit avoir un sens puisque on est en train d'établir une exception en opposition à la situation de crise.
Produits de luxe, non ?
Alors, est-ce que ce seraient des produits de luxe ?
Non, par rapport au blé et à l'orge, c'est des produits issus de quelque chose.
Issus d'un travail.
Oui, d'un travail.
Le vin aussi. Ouais. Si vous avez des lumières, vraiment, merci de les partager. Je crois qu'il y a plusieurs possibilités. Est-ce que c'est un produit sacramentel ? Est-ce que c'est, un médicament ? Est-ce que ce serait un petit peu comme une... Vous savez, comme chez les prophètes, quand un malheur est annoncé, on dit, mais il y a un tout petit reste. Hein. C'est-à-dire que il y en a 9 sur 10 qui y passent, mais il y a un tout petit reste qui laisse l'espoir possible. Alors, si on prend la solution que c'est des produits qui peuvent servir à panser des plaies, je ne sais pas. Sans doute, ça devait être compréhensible par les destinataires. J'aime bien le rappeler. Nous sommes des handicapés quand nous lisons ces textes-là. Parce que, d'abord, ils n'ont pas été écrits pour nous en première instance. Et ils ont été écrits dans une culture où les gens connaissaient et comprenaient les codes. Alors, on peut en décoder un certain nombre, puis il y en a qui sont... qui restent en dehors. Mais vous avez tout à fait raison de noter cette étrange expression. Je trouve qu'ils vont mieux reconnaître qu'on ne sait pas plutôt que d'essayer absolument de... Mais ça doit avoir un sens, ça c'est clair.
Oui, c'est produit de luxe.
Produit de luxe pour vous. Parce qu'il ne fallait pas toucher au produit de luxe.
Faut pas.
Alors, si on s'en tenait qu'à ce verset-là, je serais prêt à vous donner raison. Mais quand on va voir ailleurs, en particulier le chapitre 18 de l'Apocalypse, que nous lirons plus tard, dans notre part, on verra que le voyant de l'Apocalypse n'est pas tellement préoccupé d'épargner les riches et les produits de luxe. Donc, ça irait pas avec.
C'était pas destiné au culte,
Voilà, c'est ce que je disais, sacramentel, voilà. Comme si... Moi, ça me convaincrait peut-être cette idée. Cette idée que... Parce que finalement, tout l'Apocalypse se présente aussi comme une liturgie. À plusieurs reprises, on l'avait déjà à la fin des lettres, hein, « Celui qui entend ma voix, je frappe à sa porte, et j'ouvrirai, il m'ouvrira la porte, j'entrerai et je prendrai le repas avec lui. » C'est l'institution de la scène. Donc, certains lisent l'Apocalypse comme une sorte de liturgie qui reconfigure l'histoire. L'histoire de dehors, c'est l'Empire qui est vainqueur et dominant. L'histoire de dedans est quand on célèbre la scène ou qu'on utilise tel ou tel produit sacramentel comme l'huile ou le vin. L'histoire qui est dedans est reconfigurée avec « Non, le vainqueur, c'est le Christ ressuscité et c'est lui qui nous permet de résister spirituellement » à la fascination de ce qui semble être la victoire de l'Empire, vous voyez. Donc, du coup, il faudrait mettre à part ces produits-là parce qu'ils ont une signification dans le sens qui va dans le sens de la liturgie que met en place l'Apocalypse.
Ça empêche les pauvres de faire le culte de Dieu, quelque
chose
comme ça. Empêche les pauvres.
Alors ça, vous êtes sur, vous continuez dans votre livre.
Non, pas luxe, ouais. C'est très convaincant aussi. Vous voyez, en faisant ça, ça empêche aux autres, les pauvres, ils ne peuvent pas faire le.
Ouais. Oui, mais l'Apocalypse serait plutôt un intégrateur de la communauté qui essaie de résister et qui n'est pas uniquement, et même de loin, composé de riches. Je crois qu'il faut dire qu'on ne sait pas. On a ces pistes-là, et puis... mais allez lire, mais vous verrez, il y a plein d'hypothèses, mais voilà. Alors, on a dit, le 1, il est à part, hein, le blanc, c'est le Christ vainqueur. Dans l'histoire du monde, il y a la guerre, il y a l'économie, la spéculation, la famine, et le quatrième cheval,
c'est la mort.
Définitive. Et vous voyez que c'est la mort sous toutes ses formes. Que ce soit la mort, entre guillemets, naturelle, ou la mort apportée par l'épée. Hein? L'épée, la famine, la peste, les bêtes sauvages. La mort, les épidémies violentes. Finalement, le séjour des morts, là, ou le quatrième cheval, il récolte le travail des deux autres. Des deux précédents. Pas des trois précédents, mais des...
C'est toujours la mort violente, il n'y a rien à faire. Ça, c'est pas...
Bah, par la famine, c'est pas tellement violent.
Enfin, bon, c'est quand même
ça prend un certain temps, même si c'est dur. Ouais. Mais la famine, elle fait référence à l'économie et au troisième cheval. Et puis la mort violente. Et puis il y a encore un reliquat, c'est les pestes et les maladies et les épidémies. Hein.
Et pourquoi le pouvoir était que sur le quart de la terre?
Oui. Alors ça rentre dans ce que je disais tout à l'heure. Chez les prophètes, quand il y a des annonces d'éradication, il y a toujours un petit reste. Parce que si on dit à des gens, c'est 100% qui y passe et il n'y a aucun reliquat, ben, ça dit aussi, on le retrouvera au chapitre 19, ça dit aussi que le mal est bien là. Le mal est bien là et il fait des dégâts. Et il tue des gens, que ce soit par l'économie, par la guerre, ou par les... il est bien là, mais il est limité, il est cantonné. C'est-à-dire qu'on l'aura au chapitre 19, quand Satan, ou au chapitre 17, ou 19, quand Satan est enchaîné, et puis il est libéré pour un peu de temps. Mais... Satan enchaîné et libéré pour un peu de temps, ça ne veut pas dire qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Ça veut dire que celui qui est le maître de l'histoire est en maîtrise. Et il ne laissera pas aller jusqu'à la victoire totale des forces du mal. Ça pourrait vouloir dire ça. Alors après, il faudrait savoir quel quart. Et puis alors, ça, peut-être que ça voulait dire quelque chose, mais là encore, on ne sait pas. Voilà ce qui se répand quand le premier sceau est ouvert. C'est pas dans ce qui se répand, c'est la réalité du monde. Alors ça, c'est intéressant parce que on est pendant la période qui va de Auguste au début du 1er siècle aux premiers empereurs du 2e siècle après Jésus-Christ, dans une période exceptionnelle de paix et de prospérité. Et il y a des poètes, des rhéteurs, des hommes publics qui chantent les louanges de l'Empire qui a apporté la paix et la prospérité. Et puis, ça c'est le discours officiel. Et puis, le discours alternatif que propose le visionnaire de l'Apocalypse, c'est de dire derrière ce discours qui dit « tout est bien », Tout va, vous savez, comme Jérémie, quand vous crierez tout va bien, hein, c'est le prophète Jérémie, c'est alors que le malheur fondera sur vous. Ce que dit le visionnaire de l'Apocalypse, alors que le discours officiel dit tout va bien, il dit quand on ouvre le livre de l'histoire du monde, voilà ce qu'on voit. Les cavaliers là qui passent. En se rappelant qu'il y en a quand même un qui est parti, le premier, qui est le cavalier blanc, et qui sera vainqueur.
Est-ce que ce n'est pas à cause des persécutions de l'époque qu'il y a cette vision aussi pessimiste et contraire à la prospérité générale de l'Empire ? Parce que alors, historiquement, il est vrai que l'Empire s'est bien porté jusqu'au IIe siècle.
C'est tout à fait juste, mais avec quelques petits bémols. D'abord, les persécutions, elles commencent vraiment un peu après. Et puis, on sait que la prospérité de l'Empire, elle tenait en grande partie à d'abord à la soumission violente des populations, qui continuait à se révolter un petit peu autour, et en même temps, elle reposait aussi sur l'esclavage. Hein? C'est-à-dire que tout le monde n'était pas gagnant dans l'Empire. Il n'y avait pas que des gagnants.
Oui, dans aucune société de l'époque.
Dans aucune société de l'époque, oui, tout à fait.
La force motrice était les machines de l'époque.
Ouais. Alors ça, on verra ça au chapitre 18, que c'est extrêmement bien pointé, qu'il y a des gagnants et des perdants. Puis on a l'impression que le texte s'adresse en particulier aux perdants. Mais là, on anticipe un petit peu. Mais vous avez raison. C'est vrai que d'un point de vue global, qui est-ce qui disait un résultat globalement positif ?
Monsieur Marchais.
C'est Monsieur Marchais qui disait ça en parlant de l'expérience du communisme historique en Union soviétique. C'est globalement positif. C'est vrai que du point de vue de l'Empire et des puissants, l'Empire est une expérience globalement positive. Je crois qu'on pourrait dire à peu près de la même façon.
On est tout près de la persécution de Néron. On est tout près
Alors, il y a eu la persécution de Néron dans les années 60. On l'a vu dans les chapitres 2 et 3, la persécution, ou en tout cas la vexation est déjà là présente. Et effectivement... J'ai un collègue, Élian Cuvillier, qui dit en fait le visionnaire de l'Apocalypse est vraiment un visionnaire dans le sens où il sent que ça va devenir grave et que ça va aller au clash de façon violente, et il l'anticipe d'une certaine façon. Et du coup, il décrit une situation qui est plus noire que celle qui est présentement celle qui est vécue. Il sent que entre les chrétiens qui confessent que c'est l'agneau immolé qui règne sur le monde et l'Empire qui confesse que c'est l'Empereur sauveur et tout-puissant qui règne, on va forcément au clash. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de place pour deux. Donc le visionnaire serait visionnaire dans le sens où il dirait ces deux-là sont incompatibles.
Mais moi, je trouve qu'il y a de la provocation, ouais, justement, envers le culte impérial dans la façon dont sont reprises les adorations au trône, les acclamations, etc.
Tout à fait, exactement, oui.
Donc, ce n'est pas étonnant s'il va y avoir un clash.
Oui, absolument, on pourrait dire. Oui. On pourrait dire qu'il l'a bien cherché.
Non, mais... Il n'a rien fait pour l'empêcher, en tout cas.
Non, oui, oui. Ben, c'est-à-dire qu'on a vu que ceux qui faisaient pour empêcher... Dans les lettres aux églises des chapitres 2 et 3, c'est ceux qui trouvaient un moyen de moyenner, hein, de ménager la chèvre et le chou. Hein. Mais c'est précisément ce que lui, dans sa perspective, dénonce. Donc effectivement, il est extrême et il dit une incompatibilité, ça c'est clair.
Ouais. C'est ce que Donatius va dénoncer au 3e siècle, au 4e siècle,
ouais.
Lorsqu'il demandera que les lapsies ne soient pas réintégrées dans l'Église.
Oui, oui, oui.
C'est le maximalisme.
Voilà, alors là on est plutôt, mais en même temps, je dirais, on pourrait se poser la question, c'est pas faux de dire qu'il n'y a pas deux instances absolues qui peuvent se partager le pouvoir. C'est ou l'un ou l'autre. Alors après, les théologiens ou certains théologiens se débrouillent pour par exemple, développer la théologie des deux règnes en disant il y a un règne spirituel d'un côté et puis un règne... Voilà. Mais là, on n'en est pas là. Ce serait de l'anachronisme. Pour lui, il n'y a pas deux règnes. Il y a un règne qui est qui est tenu par un usurpateur, qui est l'empereur, et un règne qui est le règne réel, qui est le règne du Christ, de l'agneau immolé, etc. Et il y a des valeurs incompatibles de son point de vue. Si on continue, parce que je vois que l'heure avance, avec les versets 9 à 17, vous voyez que l'ouverture du cinquième sceau ne va pas donner lieu au départ d'un nouveau cheval, mais... D'ailleurs, on ne voit pas d'ailleurs ce qui se passe de particulier, si ce n'est qu'on voit ce qu'il y a sous l'autel. Sous l'autel des sacrifices. Vous dites les élus. Pourquoi est-ce qu'ils sont élus?
Parce qu'ils ont été immolés.
Oui, et pourquoi est-ce qu'ils ont été immolés?
À cause de leur foi.
Et du témoignage qui a été porté. C'est-à-dire qu'on comprend que il y a déjà... En compagnie de celui qui est sur le trône, l'agneau immolé, il y a déjà ceux qui y sont déjà passés, pour les mêmes raisons, parce qu'ils ont été immolés pour leur foi. Et vous voyez, c'est tout à fait intéressant, quand on parle d'une compréhension sacrificielle de la mort de Jésus, là, en fait, ça veut dire égorger, hein, immolé, c'est pas du tout dans le sens... Ils sont bien sous l'autel, mais c'est simplement qu'ils ont été, trucidés, comme le Christ a été trucidé, parce qu'il portait témoignage à la parole de Dieu. Donc dans la vision, ce qu'offre à voir le visionnaire de Patmos à ses destinataires, qui pourraient se désespérer en disant « on est écrasé, certains d'entre nous ont déjà été donnés aux bêtes ou... massacrés, il va donner à voir ses victimes comme des vainqueurs, à savoir comme des martyrs. Alors évidemment, c'est pour nous aujourd'hui en période post-attentat, on se dit mais mince, c'est des martyrs au même sens que quand dans l'islam extrémiste, on considère comme martyrs ceux qui sont morts pour le djihad ou les attentats. Sauf qu'eux, ils sont morts parce qu'ils ont témoigné de la parole de Dieu. Ils ne sont pas morts parce qu'ils s'étaient fait exploser ou parce qu'ils avaient, à l'époque, ils ne pouvaient pas, ou parce qu'ils avaient assassiné un soldat romain. Ils sont morts parce qu'ils avaient tenu bon dans le témoignage de la parole de Dieu. Hein? Et c'est ça qui les constitue comme martyrs, témoins, puisque c'est le même mot. Hein? Et alors, vous voyez que pour rassurer les auditeurs, on dit que dans le... Parce que ces martyrs qui ont déjà été immolés crient « Jusqu'à quand, maître, tardes-tu à juger ?» Autrement dit, ils sont dans l'impatience que le juge juge. Ou que le chevalier blanc remporte la victoire, pour qu'enfin le calvaire, sans jeu de mots qu'ils vivent, soit terminé. Alors on les rassure. On les rassure en leur disant qu'on leur donne d'abord une robe blanche, ils sont bien contents, et on leur dit, vous allez attendre jusqu'à ce que soit complet vos compagnons d'esclavage et leurs frères qui ont été comme eux. Autrement dit, c'est pas fini, il va y en avoir d'autres. Et c'est assez paradoxal, parce que le visionnaire de Patmos est en train d'envoyer un message pour soutenir la résistance spirituelle d'une communauté vis-à-vis de l'Empire, et il leur dit pas « on voit le bout du tunnel », il leur dit « ça ne fait que commencer, ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres d'entre vous qui vont les rejoindre sous l'autel ». Parce que je n'ai aucun doute sur le fait que vous serez solide dans le témoignage. Et voyez que quelque part, comme l'agneau immolé, le témoignage de la parole de Dieu rendu par ceux qui sont ou vont être immolés contribue à dire la vérité sur l'histoire du monde, en contradiction avec le discours officiel. Et puis, pour finir rapidement, mais je ne sais pas si on pourra aborder un peu le chapitre 16 quand même, vous voyez que la conséquence, c'est quand même à la fin du chapitre 6, les versets 15 à 17. Qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui ne font pas partie des témoins de l'agneau immolé, à commencer par les rois de la terre, les dignitaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, etc. Pardon ? Vont se cacher. C'est-à-dire que ceux qui tenaient le haut du pavé et le pouvoir sont maintenant terrorisés, vont se cacher dans les grottes et implorent même que la montagne s'effondre sur eux.
Pour les cacher.
Pour les cacher, oui.
Pour les ensevelir.
Pardon ?
Pas pour les ensevelir.
Pas pour les ensevelir, mais en tout cas pour les cacher. C'est-à-dire que, vous voyez, là encore, on a affaire à un retournement de la réalité. Parce que le visionnaire de Patmos, il parle à une communauté qui est sans doute dans la peur. Dans la peur ou la terreur de ce qui peut lui arriver, et peut-être l'hésitation à témoigner, parce que quand on témoigne, ça coûte cher. Et ceux qui n'ont pas peur, c'est ceux qui les persécutent. Il leur construit une réalité, avec ses visions, qui inverse le camp de la peur. C'est maintenant sont dans le camp de la peur ceux qui sont actuellement puissants. Et autrement dit, c'est de votre côté que doit être le courage. Vous n'avez pas à avoir peur parce que vous êtes déjà vainqueur. Et vous êtes déjà vainqueur parce que l'agneau immolé a remporté la victoire. Et que si vous vous conformez à sa parole et témoignez comme lui, vous serez vous aussi victorieux comme ceux qui vous ont précédé.
C'est ce que disait Jean 23, n'ayez pas peur.
C'est ce que disait Jean 23, mais on dit souvent quand Jean 23 ou quand Jean-Paul II ou quand François dit n'ayez pas peur, le pape a dit. Moi j'aime toujours rappeler que n'ayez pas peur, Jésus l'a dit d'abord. Mais c'est bien de le répéter, effectivement. C'est exactement ça, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que, oui, on pourrait voir aussi par rapport. C'est toujours difficile quand on fait quand on lit l'Apocalypse comme ça, de pas être toujours tangent avec du politique. Hein.
Ça s'attaque aux politiques.
Ça s'attaque à un politique qui se veut rassurant parce qu'il est puissant. Et évidemment, un politique qui se veut rassurant parce qu'il est puissant, il a tout intérêt à vous faire peur, à vous dire qu'il y a des dangers. Il y a sans doute des dangers. Mais il va appuyer sur ce côté-là. Celui qui va le contester va dire « n'ayez pas peur ». Sauf que là, vous voyez que on n'est pas tout à fait dans la même situation parce qu'on dit « n'ayez pas peur à ceux qui sont vraiment en danger », à savoir à ceux qui sont en danger d'être persécutés pour leur foi. Dit, n'ayez pas peur, il y en a d'autres qui sont passés avant vous. Mais oui. Alors vous verrez, il y a encore pire dans chapitre 13 que nous lirons dans 2 mois, c'est « Ne vous inquiétez pas, ceux qui doivent aller en prison iront en prison, et ceux qui doivent être décapités à la hache seront décapités à la hache. Il n'y a pas de souci à se faire. » Alors oui, je le dis de façon humoristique, mais ça veut dire que effectivement, finalement, on pourrait se dire, mais c'est quoi ce livre apocalyptique ? Jésus ne dit pas autre chose quand il dit « Mettez-vous à ma suite, celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. » C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de contradiction entre l'enseignement de Jésus et l'Apocalypse sur ce point-là. C'est-à-dire que si vous croyez que c'est l'Empire le plus fort, vous avez meilleur temps à vous soumettre à l'Empire. Et puis si vous croyez que c'est le Christ qui est vainqueur, alors vous vous soumettez au Christ. Mais surtout, prenez pas entre les deux. Vous savez, c'est la dernière lettre de l'Apocalypse. Sur les froids et les bouillants, oui, pas de tiédeur. Effectivement, alors, c'est vrai, ça peut être un langage dérangeant parce qu'on sait bien que nos vies sont faites de compromis et nécessairement. Et d'ailleurs, sans doute, la vie des premiers chrétiens l'était aussi. Simplement, il y a des situations de crise où, je dirais, le choix est plus clair. C'est-à-dire, tant qu'on est dans une situation de paix, de relative aisance, on peut avoir toutes les nuances, moi, je ne peux plus dire de gris, mais toutes les nuances, toutes les options possibles. Parce que dans chacune des options, on sait ça, qu'on rentre dans la période électorale, parce qu'on sait que la vie et la mort ne sont pas quand même en cause. Mais quand on est dans des périodes de crise, comme les chrétiens en régime soviétique ou en Corée du Nord, quand on est en régime de crise, comme les Français et une partie de l'Europe l'étaient sous l'Allemagne nazie, d'un seul coup, on est dans des situations où il faut choisir son camp. Les choix apparaissent plus simples, même si on sait bien que dans ces situations-là, il y a un tout petit pourcentage qui choisit un côté, un tout petit pourcentage qui choisit l'autre, et puis un énorme marais qui essaie de se débrouiller entre. Mais voilà. Mais je crois que le visionnaire de l'Apocalypse, il faut toujours se rappeler, quand on le trouve très binaire ou trop binaire, qu'il est dans une situation, lui et ses auditeurs, de crise qui commence et où il dit... Là, il y a un moment, il faut clarifier les positions. On a encore quelques minutes, mais on arrive vraiment au bout, où vous irez plutôt voir... on va pas le lire. Vous lirez le chapitre 7, vous verrez deux choses. Deux choses, c'est que approche dans cette grande vision de liturgie céleste... 12 000 de chacune des tribus d'Israël, ce qui fait 12 fois 12, 144 000. C'est un chiffre qu'on connaît bien parce qu'il est utilisé par les témoins de Jéhovah pour dire il y a 144 000 et pas un de plus. Alors ceci dit, ils ont été obligés de changer un petit peu leur optique parce que comme ils sont plus que 144 000, alors 144 000, c'est ceux qu'on doit au premier rang. Mais il y a des rangs derrière, hein. Après, parce que sinon, après, ils sont obligés de stopper le recrutement à 144 000, c'est embêtant. C'est tout sauf un chiffre fini, 144 000. C'est 12 par 12, deux chiffres de totalité multipliés par 1000, c'est plutôt un chiffre d'universalité. Derrière les 144 000 que vous allez voir, qui affluent à cette grande cérémonie, c'est l'ensemble de l'univers. Et on pourrait se demander s'il y a... On parle toujours de ceux qui vont en enfer, hein. Il faudra voir s'il y en a qui vont en enfer ou pas dans l'Apocalypse. C'est pas évident. Et qu'on a l'impression qu'il n'y a que le diable et le mal qui vont en enfer. Parce que le salut est beaucoup plus universaliste que le jugement. Ça, c'est, vous verrez ça quand vous lirez. Et puis alors, je voudrais juste vous attirer une dernière fois sur sur le verset 14 du chapitre 7. L'un des anciens me demande, c'est le verset 13, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» C'est un peu un quiz, là. Parce que là, ce n'est pas le visionnaire qui pose la question, c'est un des anciens qui l'interroge. Prudent, le visionnaire dit « Monseigneur, c'est toi qui le sais. Tu me poses une question, tu es mieux placé que moi pour le savoir. Hein. » Il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. » Vous voyez, on est dans une situation de crise. « Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. » Alors vous voyez, il n'a pas peur des images. Hein, parce que blanchir une robe dans le sang, c'est pas tout à fait évident. Sauf que blanchir sa robe dans le sang de l'agneau, ça veut dire avoir part à la persécution qui est la même que celle qui a été celle de l'agneau. Donc ceux qui ont une robe blanche, en fait, c'est ceux qui ont une robe tachée de sang. Sauf que c'est pas le sang de l'agneau, c'est le leur qui est dessus. Donc, pardon ?
Ceux du chapitre 6.
Exactement, ceux du chapitre 6, exactement, qu'on retrouve. Vous voyez qu'on a affaire à une reconfiguration de la réalité où les vainqueurs sont maintenant les témoins. Et comment ils sont vainqueurs? Ils ne sont pas vainqueurs en trucidant les autres, mais en étant trucidés au nom du témoignage qu'ils ont porté. C'est leur façon à eux d'être vainqueurs. On va s'arrêter là pour ne pas développer, mais... Oui, je pense à... Enfin, peut-être une question ou une remarque, mais... On va poursuivre. Là, on a l'impression que c'est un petit peu oppressant. Parce que la seule façon d'être vainqueur, c'est de mourir. Alors, on verra que, heureusement, le livre de l'Apocalypse est un kaléidoscope. Et nous allons voir le mois prochain, le 28 février, comment se joue et s'articule ce paradoxe qui est que une victoire a déjà été remportée par l'agneau, mais pour l'instant nous sommes immolés et malgré tout vainqueurs. Donc on verra avec les chapitres 12-13 comment ça se joue ce paradoxe d'une victoire déjà acquise, mais d'un combat encore à mener. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Après, j'espère que vous ne ferez pas trop de mauvais rêves. Parce que ça travaille l'imaginaire. Hein. Ça travaille l'imaginaire. Bonne fin de journée. Absolument.